une majorité hein, qui est concernée quand même, que ce soit pour l'école, les études, le travail. Alors, quand on utilise le mot travail, quelle tête faites-vous? Quelle est votre tête quand on prononce le mot travail? Tête là? Elle a du mal à venir, hein? C'est vraiment la tête que vous faites quand vous pensez à demain matin? Retour au travail lundi matin? C'est ça ou c'est ça? Ah. Hein? Il y a peut-être entre les deux, hein, quand même, hein? On n'est pas obligé de pleurer comme lui ou de sauter comme lui. C'est votre patron, ça? C'est vous, quand vous voyez votre patron? Alors, on va parler du travail ce matin. Vous allez dire, comment, Daniel? Déjà, toute la semaine, moi, je m'attends le dimanche, on parle d'autre chose que du travail. Et oui, effectivement, ça prend une bonne partie de notre temps, même si on travaille un peu moins que, quoique, pour certains, qu'il y a quelques générations. Et mais ça, voilà, ça prend une grande part de notre vie quand même. Hein. Ça peut devenir cela, vous voyez. Vous voyez la mamie avec sa petite fille qui dit, moi, à ton âge, je travaillais déjà. Oui, à 12 ans peut-être. Puis la petite fille qui dit à sa mamie, moi, à ton âge, je travaillerai encore. À devoir 80 ans, vous voyez. C'est un peu de ça, hein. Ça va se rallonger, vous voyez. Les privilégiés, ça y est, c'est terminé, là, maintenant. Vous allez voir avec les prochaines élections. Ça va prendre 2-3 ans de plus. Vous vous préparez, hein. Moi, j'arrive encore à la limite, là, ça va. Je suis parmi les derniers, privilégiés. Mais après, il y aura un peu plus d'années à faire, un peu plus de travail. La Bible en parle ainsi du travail. Elle dit, c'est dans le livre des Proverbes, que le travail, l'activité, être actif, c'est le bien le plus précieux de l'homme. Hein, le bien le plus précieux d'un homme, c'est d'être actif. Quand on ne peut pas être actif, on sait que ça peut être difficile, douloureux. Alors qu'est-ce que, en ce moment même, qu'est-ce que le travail évoque pour vous? J'ai mis deux listes. La première liste, alors, ulcère, psychosomatique, hein, vous voyez ce que ça veut dire, humiliation, mauvaise relation professionnelle, harcèlement, burn-out, l'épuisement professionnel, bas salaire, licenciement, chômage, accident de travail, maladie professionnelle. Pour certains, c'est trop de travail. Pour d'autres, c'est pas assez, ils s'ennuient vraiment. C'est peut-être plus rare, mais ça arrive. Effectivement, si vous avez tout ça ce matin, ça va être dur d'aller au boulot demain matin, là. Non? Alors, vous n'avez pas forcément tout ça, mais vous pouvez avoir un ou deux, déjà un ou deux points de cette liste, c'est déjà assez difficile. Ou alors c'est l'autre liste. Le travail évoque pour vous l'épanouissement, l'accomplissement, des bonnes relations professionnelles, quand on s'entend bien avec ses collègues, avec l'équipe avec qui on travaille, les responsabilités qui nous sont confiées, la promotion, ça compte, hein? Yes, il y en a qui disent. Le bon salaire, ça arrive hein, quand même. Yes. Sécurité d'emploi, ça c'est pas donné à tout le monde, mais quand on l'a, c'est pas mal. Et des perspectives de carrière aussi. Alors, je pense pas que tout le monde a soit une liste ou l'autre, hein. C'est souvent un mix des deux. Mais, vous voyez, la liste négative, voilà, ulcère, humiliation, harcèlement, burn-out, maladie professionnelle, si j'étais un marxiste léniniste, Je rajouterais aliénation, asservissement, domination, exploitation. Non ? Mais je ne suis pas marxiste-léniniste. On a entendu souvent ça. Alors, je ne sais pas dans quelle liste vous êtes. Alors, si vous êtes dans la première liste totalement, dans la deuxième liste, je veux dire la liste positive, alors ben, peut-être vous dire, bon, c'est pas la peine d'en parler. Hein. On peut passer à un autre sujet. Quoique, vous allez voir que ça peut être intéressant, même si vous êtes que dans cette liste-là. En revanche, si vous êtes dans l'autre, vous avez peut-être envie ce matin de savoir ce que Dieu peut vous dire sur ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que la Bible parle du travail? Bien évidemment. Alors, peut-être pas la forme qu'on aurait voulu, moi, que moi j'aurais voulu. J'aurais bien voulu qu'il y ait un cours de théologie dans la Bible, hein, qui nous présente point par point ce qu'est le travail. Mais ça n'existe pas. La Bible nous parle d'un Dieu qui travaille. La Bible commence par nous parler d'un Dieu qui travaille. Hein, le premier chapitre de la Bible, c'est la création. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait une œuvre. C'est Dieu qui travaille. Et quand il arrive au couronnement de sa création, c'est-à-dire un être créé à son image, ben c'est aussi quelqu'un qui va travailler. Quelqu'un qui va collaborer avec lui. Et on voit dans toute la Bible, on nous décrit des hommes et des femmes qui travaillent, qui fabriquent, qui transforment, qui travaillent la terre, qui gardent du bétail. On a des hommes comme Moïse et David qui vont garder des troupeaux. On a Élisée, par exemple, qui labourait la terre lorsque Élie l'a rencontré. Puis on a ces prêtres dans le temple, dans le tabernacle. Ils travaillaient beaucoup, les prêtres. Hein, parce que, croyez-moi, c'était un boulot très physique de faire les sacrifices, de préparer tout cela. Les prophètes aussi travaillaient. Ils étaient des porte-paroles de Dieu. Et puis, bien sûr, on a Jésus qui était un charpentier. Lui a travaillé aussi. Les disciples aussi. Beaucoup d'entre eux étaient des pêcheurs sur le lac de Galilée. Paul était un fabricant de tentes, travaillait aussi avec ses mains. Et dans les épîtres, les apôtres qui savaient qu'ils s'adressaient à des hommes et à des femmes qui avaient reçu ce salut en Christ, cette œuvre de rédemption, et que cette œuvre, elle est là pour toucher tous les aspects de notre vie, tous les domaines de notre vie relationnelle, bien sûr, d'abord avec Dieu, réconciliation avec Dieu, notre vie avec les autres, et donc sur le plan familial, sur le plan du couple, donc il y a des exhortations, des enseignements là-dessus, la relation fraternelle aussi dans l'Église, même jusqu'à nos rapports avec nos ennemis, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos ennemis, sur la question de l'argent aussi, des biens matériels, et puis bien sûr sur le travail. On est question du service que l'on fait, parce que c'est aussi, c'est pas un travail rémunéré, mais c'est un travail, c'est une activité, que ce soit manuel ou intellectuel. En somme, dans ce domaine-là, le domaine du travail, comme dans tous les autres domaines, ce qu'on a besoin de trouver, c'est un sens, une raison. Une raison de travailler, en fait. Dans tout ce qu'on fait, on a besoin de trouver un sens. On cherche un sens. Alors, il faut trouver le sens juste. Ce n'est pas forcément ce que l'on fait, mais on a besoin de ça. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. C'est pour ça que j'ai intitulé cette méditation ce matin, mon plus grand patron. Qui est mon plus grand patron? Qui est mon plus grand maître, on pourrait dire? On va regarder la place de Dieu dans mon travail, justement. Quelle est sa place? Quelle place je lui donne, en fait? Est-ce que je lui donne une place? Est-ce que je lui donne la place qui lui revient? On verra ensuite quand Dieu devient mon plus grand patron. Qu'est-ce que ça produit? Quelles sont les conséquences quand Dieu est vraiment mon maître? Mon premier maître, et puis on verra aussi enfin quand mon plus grand patron devient un serviteur. Ça, c'est la beauté de l'évangile, quand le maître devient un serviteur et est là pour me servir en fait. On va s'arrêter dans un premier temps, donc sur ce premier point, la place que je donne à Dieu dans mon travail. Je le disais, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de trouver un sens pour le faire. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens la chose suivante. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pas mal ça, hein? Heureusement qu'il a précisé au début, soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Parce que peut-être qu'on n'aurait jamais pensé à ça, vous voyez? Non? On aurait pensé, quand vous priez, quand vous témoignez aux autres, quand vous apportez la parole, que ce soit pour la gloire de Dieu. Oui, oui, mais manger et boire. Enfin, des choses aussi ordinaires, aussi quotidiennes. Non, non, non. Paul dit tout ce que nous faisons, en fait. Même les choses matérielles. Quoi que vous fassiez, en fait. Et là, on peut mettre le travail, bien évidemment. Bien évidemment. Le travail fait partie de cette liste pour Paul. Il s'agit de tout faire pour la gloire de Dieu. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu va avoir sa place dans ma vie et donc dans ce que je vais faire et dans le travail que je vais faire. Mais pour cela, il faut arriver à donner un sens, une raison, et la bonne raison, sur le travail que je fais. Comment est-ce que Dieu peut influencer ma vie et particulièrement mon travail? Je vais vous donner une illustration qui explique cela. Je l'avais déjà donné il y a 3 ans. Cela. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Vous vous souvenez du canard sauvage? Oui? Je pense aux chasseurs, là. Les chasseurs, ils savent. Comme ça, il y a des repères. L'illustration du canard sauvage, c'est une belle illustration. C'est l'illustration d'un philosophe contemporain. Il est encore vivant, même si je crois qu'il est très âgé. Un philosophe écossais, Alasdair MacIntyre, qui raconte cette histoire. Et il dit, voilà, il y a un homme qui est à un arrêt de bus et un jeune homme vient le voir. Et ce jeune homme lui dit, le nom du canard sauvage est Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus. Et il s'en va. Et il vous laisse avec ça. Vous imaginez si demain matin, en prenant le tram, vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit cette phrase-là. Comment vous allez réagir? Vous voyez? Parce que la phrase en soi, elle n'est pas compliquée. C'est le nom scientifique de canard sauvage, arlequin, tout ce que vous voulez. C'est le nom scientifique, c'est le nom latin. Donc c'est pas difficile à comprendre, mais on se dit, mais à quoi ça sert? C'est pourquoi, donc, comme il est parti, on va essayer d'imaginer, mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a dit cette phrase-là? Alors il y a plusieurs possibilités, bien sûr. La première possibilité, qu'est-ce qu'on peut penser dans une telle situation? On va dire, oh, peut-être que ce jeune homme est malade, il est dérangé. Vous voyez, on dira, voilà, bon, il est un peu dérangé. C'est des choses qui arrivent, hein, les gens qui ont des problèmes mentaux comme ça, ils arrivent, ils vous donnent une phrase et puis ils s'en vont, ouais, voilà, ça se passe comme ça. Donc, vous dites, tiens, vous mettez cette phrase dans cette histoire-là, l'histoire c'est un homme qui est dérangé, ben voilà, ça vous suffit en fait. Mais pour certains, y en a qui veulent chercher un peu plus loin, ouais, dire, il n'avait pas l'air si dérangé que ça en fait. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors vous dites, alors là vous essayez d'inventer une véritable histoire. Vous dites, tiens, peut-être que hier ou il y a quelques heures, ce jeune homme s'est retrouvé dans la bibliothèque municipale de la ville et quelqu'un lui a dit, c'est quoi le nom du canard sauvage, le nom scientifique? Et le jeune homme n'a pas pu répondre à ce moment-là. Mais il a cherché. Il était dans la bibliothèque, il a cherché, il a trouvé que c'était Histrionicus. Donc, il était content, mais il était parti. Et puis, il arrive à l'arrêt d'un bus, et puis il croit le reconnaître. Il se dit, ah ben c'est lui, vous êtes le sosie. Donc il pense que c'est vous. Et c'est parce qu'il pense que c'est vous qu'il vous dit, ah ben, c'est une façon de dire, j'ai trouvé la réponse à la question que vous m'avez posée il y a quelque temps, à la bibliothèque municipale. Donc vous voyez, si vous trouvez cette histoire, à ce moment-là, cette phrase-là va avoir un sens. Elle aura un sens. Vous direz, bah oui, bah c'est ça. Pour d'autres, ils vont peut-être chercher ailleurs. Ce sont ceux qui lisent plus les livres policiers, les films du genre Mission Impossible et tout ça. Et ils vont se dire, ah, voilà, une phrase comme ça, ça c'est un code. Ça c'est un code. Là, certainement, c'est un agent secret. Alors, c'est peut-être un agent secret de Daesh. C'est peut-être un djihadiste. Voyez? Là, vous allez dire, oh là là! Je suis passé très près, là. Vous pouvez mettre cette histoire pour expliquer cette phrase. On fait tous cela. Dès qu'on est devant quelque chose qui est mystérieux, énigmatique, on va essayer de mettre une histoire dedans pour que ça ait un sens. Alors bien évidemment, selon l'histoire que l'on va accepter, on va réagir. Vous voyez? Donc si vous vous dites, c'est un malade mental, oh là là, ça peut devenir très grave, il faut peut-être qu'il soit soigné, donc je vais appeler vite le SAMU. Vous voyez? Si vous pensez que c'est un djihadiste, vous allez dire, oh là là, vite, vite, il faut appeler la police. Oui, ça marche. Si c'est vrai, parce que si vous vous appelez la police pour un djihadiste alors que c'est un malade mental, ou vous appelez le SAMU pour un malade mental alors que c'est un djihadiste, vous voyez que ça va compliquer les choses. On fait tous cela. Vous allez dire, mais quel rapport avec le travail? Ben, il est là le rapport avec le travail. C'est que si je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous travaillez? Vous allez me raconter une histoire. Forcément, vous allez me raconter une histoire. Vous n'allez pas dire, je travaille parce que je travaille. Non, non, non. Certains diront, quand vous leur posez cette question, certains vous disent, moi, je travaille pour gagner de l'argent. Moi, je veux gagner le plus d'argent possible. C'est pour ça que je travaille. Pour ça que je me défonce au travail, parce que je veux gagner le plus d'argent possible, parce que le jour où j'aurai beaucoup d'argent, je serai heureux. J'aurai le bonheur. Non? C'est parce que vous pensez peut-être pas ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'est leur histoire à eux. C'est pour ça qu'ils se lèvent le lundi matin, quand ils n'ont pas trop envie. Mais eux, le but, c'est d'avoir de l'argent, parce que pour eux, l'argent, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et ça va être la source de leur bonheur. C'est leur histoire à eux. Pour d'autres, ça sera autre chose. D'autres vont dire, moi, si je travaille, c'est parce que je vais être enfin reconnu dans mes talents, dans les dons que j'ai. J'ai été un peu mis de côté dans la famille, on m'a dévalorisé. Maintenant, si je réussis dans mon travail, si j'ai une très bonne carrière, à ce moment-là, je vais être reconnu, non seulement dans le travail, mais après dans ma famille. On va dire, oh là là, t'es arrivé là, t'as ce poste-là, donc t'es quelqu'un, donc ça y est, je vais être reconnu. Il y a des quantités de gens, ils travaillent pour ça. Ils travaillent pour ça. Donc forcément, la question, pourquoi est-ce que je travaille, j'ai une réponse, et cette réponse, c'est mon histoire à moi, c'est ce qui va donner un sens à mon travail, à ce que je fais, et j'en ai besoin, c'est indispensable. Je peux pas faire autrement. Le problème, c'est comme pour l'illustration que je vous ai donnée, si vous appelez le SAMU pour quelqu'un qui n'est pas un malade mental, mais qui est un djihadiste, ou le contraire, et c'est souvent ce qui se passe. Beaucoup de gens disent, pour moi, le travail, c'est de gagner beaucoup d'argent, parce que beaucoup d'argent, ça sera le bonheur. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, avec le travail. Énormément d'argent, même. Ils pensent être heureux, et puis ils arrivent au bout, ils sont pas heureux. Ils disent, tiens, je me suis trompé quelque part. Non seulement ils sont pas heureux, mais ils sont terriblement malheureux, parce que les vraies choses de la vie, c'est-à-dire les relations, la famille, les enfants, tout ça, ils ont mis ça de côté toute leur vie parce qu'ils étaient tellement focalisés sur l'argent, sur le bonheur dans ce sens-là, qu'ils ont laissé les vraies valeurs de la vie. Ils arrivent à la fin de leur vie, ils sont tout seuls. Ils sont malheureux comme la pierre. Ils pensaient trouver le bonheur, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. On n'a pas intérêt de se tromper, vous savez. Parce que la punition va être terrible. Un jour, il y a la sanction, forcément. On veut la reconnaissance, on cherche la reconnaissance. On peut finir par avoir la reconnaissance. Mais vous savez quoi avec la reconnaissance? Quand on la cherche du côté des hommes, on n'en a jamais assez. On en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. Alors, l'intérêt avec la Bible, la parole de Dieu, c'est qu'elle vient nous donner une autre raison, un autre sens. Elle vient mettre notre travail dans une histoire. Elle change, bien sûr, cette histoire par rapport à celle qu'on s'était donnée. Elle doit changer. L'histoire biblique, vous la connaissez. L'histoire biblique, c'est Dieu qui a créé, après la création, la chute, l'homme qui s'est éloigné de Dieu et Dieu qui a réparé. C'est l'œuvre de salut, l'œuvre de rédemption qui couvre 98% de la Bible, en fait. Pour se terminer avec la nouvelle création. Ça, c'est l'histoire biblique. Et nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à mettre notre vie dans cette histoire biblique, en fait. Toute notre vie, y compris notre travail, bien sûr. Quand Dieu nous sauve, c'est pas seulement de nous réconcilier avec lui qu'il fait. C'est pas simplement de nous pardonner. Mais il s'intéresse à toute ma vie familiale, ma vie de couple, ma vie relationnelle, sous quelque forme qu'elle soit, et puis aussi ma vie professionnelle, bien sûr. Donc, quelle est la place de Dieu dans notre vie? Quelle est la place que Dieu attend et Dieu demande? Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, quand Dieu devient mon plus grand patron. Nous allons lire ce texte dans Éphésiens 6. Paul dit, serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur, et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. La grande révélation que Paul fait ici, ce qu'il rappelle à ses chrétiens, c'est qu'il leur dit, écoutez, que vous soyez un esclave, parce qu'on était à l'époque, bien sûr, de l'esclavage, que vous soyez un esclave ou un maître, que vous soyez un employé ou un patron, on pourrait dire aujourd'hui, rappelez-vous d'une chose, c'est que vous avez un autre maître ou un autre patron, en fait. Et forcément, ça va avoir des conséquences dans notre vie pratique, dans notre travail. Ça va avoir des conséquences très fortes, bien évidemment, dans notre vie personnelle. Si je suis un employé et que j'ai un patron et que ce patron est pas facile à obéir, ça existe, hein, il y a des bons patrons, mais il n'y a pas que des bons. Oui, pas de commentaires, hein, s'il vous plaît, pas de nom. Et alors c'est difficile de travailler. Comme Paul le dit, quand on est esclave, pour ces esclaves, il y avait des bons maîtres, mais il y avait des très mauvais maîtres. Comment faire? La tentation, bien sûr, c'est d'en faire le moins possible. C'est de faire ce qu'on a à faire que quand le maître est là, quand le patron est là. Puis dès qu'il n'est pas là, dès qu'il a le dos tourné, on ne fait plus rien. C'est pas ce qui se passe. Forcément, vous n'êtes pas motivé. On n'est pas motivé. Quand on a un bon maître, on peut aussi essayer de trouver cette reconnaissance. Un bon patron, on veut essayer de trouver cette reconnaissance que l'on attend tant dans notre vie. Et si on sait que Dieu entre notre grand patron, notre grand maître. Quand le patron est difficile, Paul dit, bien, rappelez-vous d'une chose, c'est que vous servez d'abord un grand patron, en fait. Celui que vous avez sur le plan terrestre, il est pour un temps. Un jour, il disparaîtra. Mais celui que vous avez au-dessus, lui, restera pour l'éternité. C'est votre patron pour toujours, en fait. Et lui, il vous voit tout le temps. Il y en a un terrestre qui ne vous voit pas tout le temps, mais lui, il vous voit tout le temps. Donc, vous le faites d'abord pour lui, en fait. Et il disait ça, ce n'était pas des employés, hein, c'était des esclaves. Et les maîtres n'étaient pas forcément très sympas avec leurs esclaves. Donc, il leur dit, voyez les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire que Dieu soit votre plus grand patron ou votre plus grand maître. Ça, c'est l'histoire dans laquelle Dieu veut que l'on place notre travail, en fait. C'est pour ça que Paul dira à ces chrétiens de Corinthe, quoi que vous fassiez, mangez, boire, faites tout pour la gloire de Dieu. Même ça, justement. Même ça. Et si votre désir, c'est d'être reconnu par votre patron, un jour, ça peut mal se passer, bien sûr. Rappelez-vous, si vous avez un grand patron, c'est lui qui vous reconnaît. C'est lui qui vous a accepté. Et si lui vous a accepté, vous n'allez pas le chercher avec une telle obsession sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan terrestre. Parce que vous avez cette reconnaissance de la part de votre plus grand patron qui est Dieu, en fait. Parce que s'il y en a qui, parfois, ne travaillent pas assez, il y en a qui travaillent de trop, et ils travaillent de trop parce qu'ils veulent tellement être reconnus. Donc lorsque nous savons cela, et lorsque Dieu a cette place-là, ça va certainement modifier notre attitude, notre comportement dans le cadre de notre vie professionnelle. Vous vous souvenez quand Jésus va appeler ses disciples et ses pêcheurs sur le lac de Tibériade, il va les appeler à devenir ses apôtres, ses envoyés, donc. Et il va le faire avec Pierre en particulier. Le jour où ils vont vivre cette pêche miraculeuse, Jésus va dire à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'était un pêcheur de poissons. Pêcheur sur le lac de Tibériade ou de Galilée. C'était là son activité professionnelle, c'était son travail. Il était c'était un pêcheur, avec d'autres bien sûr. Il avait sa petite compagnie artisanale de pêche et c'est ce qu'il faisait probablement depuis des générations. C'est ce qu'il faisait dans la famille de Pierre. Et Jésus lui dit, écoute, là, à partir de maintenant, eh bien, tu seras un pêcheur d'hommes. On sait ce que Jésus a voulu lui dire. Maintenant, ce ne sera plus des poissons que tu vas pêcher, mais tu vas pêcher des âmes, tu vas porter l'évangile pour que des hommes et des femmes puissent vivre ce que toi tu as vécu, ce que toi tu as reçu. Mais en même temps, je crois que c'est une certaine manière pour Jésus de dire à Pierre, écoute, derrière le pêcheur que tu es, il y a un autre pêcheur. Derrière le travail que tu fais, il y a un autre travail. Derrière le patron que toi tu es, il y a un autre patron en fait. Et ça, c'est ce que nous pouvons nous dire, nous aussi, les uns et les autres. Derrière notre travail, il y a un autre travail. Il peut y avoir un service, justement, un service que l'on rend à Dieu, en fait, un témoignage que l'on porte. Derrière au-dessus de notre patron, il y a un autre patron à qui nous devons obéir. Et si c'est pas toujours facile d'obéir au patron terrestre, eh bien, notre rôle à nous, c'est d'obéir à ce patron céleste. Ça, c'est ce que Paul dira c'est ce qu'il dira à ses Éphésiens quand il parlera aux maîtres et aux esclaves. Avant cela, il parlera aux maris et aux femmes. Et avant cela, il parlera aussi aux enfants et aux parents. Vous savez, vous connaissez ce texte? Quand il s'adresse au couple, s'adresse aux parents-enfants, et puis s'adresse aussi dans le cadre professionnel aux esclaves et aux maîtres. Et ça, c'est quelque chose qui était fréquent à cette époque, c'est ce qu'on appelle le code domestique. Il y avait des philosophes notamment qui donnaient ce genre de règles ou de lois concernant l'attitude là dans le couple, dans la famille ou dans le travail. Mais la grande différence que Paul fait et qu'il y a dans le Nouveau Testament, c'est que jamais, en dehors du Nouveau Testament, lorsque ces règles étaient données, jamais on ne s'adressait directement soit à la femme, soit aux enfants, soit aux esclaves. C'était impossible. On s'adressait jamais, comme il est fait ici, à la deuxième personne en disant, voilà, tu dois te comporter comme cela. On s'adressait à la troisième personne, c'est-à-dire on s'adressait au mari en disant, voilà comment ta femme doit se comporter. On s'adressait aux parents en disant, voilà comment tes enfants doivent se comporter. On s'adressait au maître en disant, voilà comment tes esclaves. Là, la grande différence, c'est que Paul, il savait bien ça, il dira, en Christ, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni grec, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, en fait. Il y a cette égalité, et donc Paul va s'adresser directement à ceux qui étaient déconsidérés à cette époque, c'est-à-dire la femme, les enfants et les esclaves. Et là, il va s'adresser aux esclaves directement. Et en plus, il commence par eux. Il commence par parler à la femme, il commence par parler aux enfants, et il commence par parler aux esclaves. Et ensuite, il parle au mari, ensuite il parle aux parents, ensuite il parle au maître, en fait. Vous voyez comment la Bible est là pour rééquilibrer les choses, les rétablir, alors qu'elles étaient complètement déséquilibrées dans la société dans laquelle ils étaient. Donc, ça c'est quand quand Dieu est notre plus grand patron, en fait, et le premier patron. Et pour nous aider à l'avoir comme premier patron, l'Évangile nous amène à découvrir en lui que ce premier patron est devenu un serviteur. Et là, ça surprend. Quand Paul va donner cette exhortation aux Éphésiens, en parlant aux esclaves, en parlant avant, je l'ai dit, aux parents, en parlant au couple, il commencera par cette phrase, tout ce paragraphe commence par cette phrase, par ce verset, le verset 21, Paul dit « Soumettez-vous aux uns aux autres dans la crainte de Christ. » Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Après, il y aura un rôle. Effectivement, il va parler du rôle de la femme par rapport au mari, du rôle des enfants par rapport aux parents, du rôle des esclaves par rapport au maître. Mais il commence par dire « Soumettez-vous les uns aux autres, les uns aux autres, quelle que soit votre catégorie. » De sexe, social, statut, peu importe. On doit développer cet esprit-là et le faire dans la crainte de Christ. Alors ce mot crainte, souvent, fait un peu peur, justement. On pense qu'il s'agit de la peur, mais il ne s'agit vraiment pas de la peur, en fait. Il s'agit du respect, il s'agit même de l'émerveillement, de l'étonnement. C'est ce que il nous est dit, par exemple, dans un psaume, le psaume 130, « Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. » Je ne sais pas si j'ai mis ce verset, mais ce n'est pas grave. « Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. » C'est-à-dire, l'idée, c'est que je suis tellement émerveillé par le pardon que Dieu m'a donné, par la grâce qu'il m'a faite, que je suis dans le respect et dans la volonté de rester attaché à Dieu, en fait. Le fait de servir Dieu, dans la joie d'être pardonné, dans la joie d'être sauvé. Ça, c'est ce que l'Évangile nous déclenche en nous, en fait. Cet émerveillement. Et c'est ce qu'on découvre dans l'Évangile. Vous connaissez cette scène lorsque Jésus va, le dernier soir, avec ses disciples, il va laver les pieds de ses disciples. Nous, on a probablement beaucoup de mal à se replacer dans le contexte, parce qu'on n'a pas vécu cela, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais croyez-moi que pour les disciples, ça a été un vrai choc. Vous imaginez, demain matin, vous allez à votre travail et votre patron, il vient dans votre bureau, il dit « Non, 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 laisse, je vais nettoyer ton bureau. » Vous allez dire « Non, ce n'est pas à vous de le faire, si y a quelqu'un, s'il n'y a pas la femme de ménage, c'est moi qui vais le faire. » « Non, non, c'est moi qui vais le faire. » Déjà ça, vous direz « Mais pourquoi tu fais ça, enfin ?» Déjà, le fait de vouloir faire ça. Là, Jésus va aller jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Vous comprenez pourquoi Pierre a réagi comme il a réagi? Pourquoi Pierre a dit, mais non, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Enfin, il était même scandalisé. Parce que Pierre reconnaissait Jésus comme son maître. Et là, tout d'un coup, il avait un maître qui devenait un serviteur, un esclave. Il faisait même ce que les esclaves qui étaient le plus bas dans l'échelle sociale faisaient. Et Jésus a fait cela. Mais ça ne s'est pas arrêté là, bien sûr. C'est allé jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort de la croix. C'est là qu'il nous a servi le mieux et le plus. Et ces actes-là, bien sûr, lorsque nous les saisissons, lorsque nous les croyons, lorsque nous les retrouvons, lorsque nous partageons le repas de Sainte-Cène, ils nous bouleversent, ils nous transportent, ils nous émerveillent. Ah, obéir à un maître comme cela, c'est pas difficile. Hein. Ça veut dire que demain matin, peut-être vous allez retourner au travail, vous allez être face à un chef de service, à un patron que vous n'estimez pas beaucoup. Et pour de bonnes raisons, peut-être même. Parce qu'il est plutôt dur, il est parfois injuste. Comment le servir alors? Comment faire ce que je suis appelé à faire à ce moment-là? Paul dit, ben, comme Christ vous a servi. Faites-le dans la crainte de Christ, en fait. Christ, quand il nous a servi, ce n'est pas des amis qu'il a servi, c'est des ennemis qu'il a servi. Et ça, ça peut changer notre manière de travailler, de servir les autres. Et à tous les niveaux, parce qu'il y a le travail rémunéré, mais il y a tous les services. Il y a ce que nous faisons ici dans le cadre de l'Église aussi. Pour d'autres, peut-être, demain matin, quand vous allez retourner au travail, votre problème à vous, c'est que vous cherchez tellement à plaire et à trouver la reconnaissance, et à trouver la réussite sociale. C'est ça votre obsession. Quand vous pensez travail, vous pensez toujours à la même chose. Vous dites, ouais, moi je veux réussir socialement, je veux aller le plus haut possible. Si vous réalisez que Jésus est votre seul maître et qu'il est mort pour vous, alors vous allez découvrir une chose, hein. C'est que si vous faites de votre carrière un dieu, un maître, un jour ça peut très mal se passer. Et c'est ce qui se passe à beaucoup de gens quand ils connaissent le licenciement notamment. Et ce maître-là, vous savez, il va jamais mourir pour vous. Hein. Il va peut-être vous dire, oh je regrette, c'est dommage pour toi, tu vas perdre ton travail. Il va peut-être vous donner des indemnités chômage. Oui, mais il va pas mourir pour vous. Ça c'est sûr. Il y en a un seul qui est mort et qui a donné sa vie pour nous. C'est pour ça que Jésus dira, on ne peut pas servir deux maîtres. Alors il y a des maîtres terrestres, il y a des chefs, il y a des patrons terrestres, il y a des autorités, c'est normal. Elles sont là, elles sont politiques, elles sont professionnelles, elles sont même spirituelles. Et ça c'est normal, ils ont une autorité légitime. Et nous sommes appelés à obéir, à nous soumettre à ces autorités légitimes que nous avons dans notre vie. Mais ça ne doit jamais prendre la place de celui qui est le maître absolu, en fait. Puisqu'on parle du travail, on peut dire du grand patron. Souvent, quand on parle des grands patrons dans la société, ce n'est pas pour leur donner des fleurs. Hein. Et là, il est question d'un autre grand patron, en fait, d'un autre grand maître. Et si c'est lui qui conduit notre vie, si c'est lui qui a donné un sens à notre vie de travail, notre vie professionnelle, certainement qu'on a les moyens de réagir et de surmonter, parfois des difficultés, bien sûr, des injustices. Ne pas se laisser piéger pour... Vouloir à tout prix avoir la reconnaissance sociale, le statut social. Parce que ça, un jour, ça ne suffira pas. De mettre, en fait, la Bible comme la base de mon histoire personnelle, en fait. C'est comme ça que ma vie de travail aussi sera transformée. Et mes réactions seront différentes selon les situations que je vais rencontrer. Ça, c'est ce qu'on est appelé à vivre au quotidien. Je sais que certains, c'est ce qu'ils vivent. Quand j'entends les témoignages, j'entends les réactions, ça a transformé leur vie professionnelle. Ça a transformé aussi l'atmosphère au bureau, la manière de réagir. Ça a bouleversé les choses, en fait. On peut avoir une influence, vous savez, dans le bureau. Même si on n'est que le seul chrétien, on peut avoir une influence énorme au travers de notre attitude. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire. À condition que Christ soit notre grand patron, notre seul maître. Je voudrais m'intéresser maintenant à ceux et celles. On l'avait fait l'année dernière, vous vous souvenez. Parce que vous êtes venus, c'est peut-être avec ce fardeau-là que vous avez. Peut-être que chaque matin, et je sais que certains l'ont vécu ici, quand ils partent au travail, ils partent avec une boule au ventre. Ils sont là, ils ont tellement peur de ce qui peut leur arriver. Les relations sont tellement difficiles avec les collègues ou avec les supérieurs. Il y a tellement de menaces. Donc il y a ceux qui vivent cela. Et il y en a ici. Il y a ceux qui vivent le chômage, le licenciement, qui l'ont vécu et qui le vivent encore. Il y a ceux qui commencent les études, il y a ceux qui viennent, qui nous rejoignent dans cette ville pour commencer de nouvelles études, dans une nouvelle école, enfin voilà, il y a un peu de tension là, on se dit mais comment ça va se passer? J'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière maintenant pour prier pour tous ceux qui sont concernés par cela. D'une manière ou d'une autre, ça touche le travail, ce que j'ai évoqué, peut-être ce que je n'ai pas évoqué, mais qui est là et qui est pour vous un vrai fardeau. Et vous ne voulez pas vivre parce que c'est quand même 8 heures par jour. C'est 35 heures, des fois beaucoup plus par semaine. Et c'est terrible de vivre ces jours et ces mois, ces années dans cet esprit-là, avec des angoisses. Donc on va prier pour cela. Je sais qu'il y en a qui sont concernés. Si vous êtes concernés, je vous invite à vous lever à votre place pour qu'on puisse prier pour vous et demander à Dieu, soit que vous trouviez un travail, soit que Dieu vous aide dans votre situation professionnelle qui est difficile. Peut-être que les choses commencent à se boucher devant vous. Vous avez besoin de sa grâce dans ce domaine-là. Donc s'il y en a qui sont concernés, je vous invite à vous lever à votre place par rapport à votre situation professionnelle. Et on va prier ensemble. On va demander à Dieu de vous aider, de vous accompagner. Seigneur, tu vois ceux qui se lèvent ce matin et qui sont directement concernés par une difficulté particulière dans le cadre de leurs études, dans le cadre de leur travail, Seigneur. Soit parce qu'ils n'en ont pas et qu'ils en cherchent, soit parce qu'ils en ont un mais qu'ils le vivent mal, difficilement, Seigneur. Pour différentes raisons, Seigneur. Tu connais tout cela, Seigneur, et nous croyons que tu t'intéresses vraiment à toute notre vie, Seigneur. Et que tu veux aussi, Seigneur, te manifester pour eux. Tu l'as fait, Seigneur, pour beaucoup ici, dans cette église, Seigneur. Et tu veux encore le faire, Seigneur, pour ceux qui sont debout ce matin. Alors nous te prions pour eux, Seigneur, afin de leur donner cette véritable victoire, Seigneur. Tu veux les aider à surmonter, à avoir la bonne réaction, la bonne attitude, Seigneur. C'est toi qui es, Seigneur, d'abord notre maître absolu, Seigneur. C'est toi notre plus grand patron, Seigneur. C'est toi et à toi d'abord que nous voulons obéir, Seigneur. Avant d'obéir à des hommes, nous t'obéissons à toi qui es notre Dieu. Et Seigneur, tu veux leur donner cette victoire-là, Seigneur. Nous croyons que tu veux les libérer peut-être des angoisses qu'ils vivent en ce moment, Seigneur, par rapport à cela, Seigneur. Tu veux qu'ils aillent demain au travail, si c'est le cas, Seigneur, avec un cœur léger, Seigneur, avec une vraie paix, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, et que eux-mêmes ayant changé l'atmosphère dans leur bureau, dans leur service, va changer aussi, Seigneur. Te prions pour cela, Seigneur, parce que tu t'intéresses vraiment à tous les aspects de notre vie personnelle. Ceux qui cherchent un travail, ceux qui sont sans emploi, Seigneur, et qui ont besoin, Seigneur, d'un emploi, Seigneur, tu veux les aider. Ceux qui sont dans une maladie professionnelle, un accident de travail, Seigneur, et qui ont besoin d'être relevés et guéris, nous te prions pour eux. Seigneur Jésus, viens à leur secours, Seigneur. C'est là notre prière et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur.